Cheval qui pouvait, dit-il, traduire du turc ou de l'arabe en français, en anglais ou en italien, et parler le turc aussi bien que l'allemand. Peut-être me manquait-il de jolies grecques ou arméniennes, avec qui, comme lui, me promener chaque après-midi au bord du détroit pour pratiquer la langue. Sarah gardait à ce propos un souvenir horrifié de son premier cours d'arabe à Paris. Une sommité, un orientaliste de renom, Gilbert Delannoy, avait asséné, du haut de sa chaire, la vérité suivante. Pour bien savoir l'arabe, il faut 20 ans. Cette durée peut être ramenée à la moitié avec l'aide d'un bon dictionnaire en peau de fesse. Un bon dictionnaire en peau de fesse. Voilà ce que semblait avoir Hammer. Et même plusieurs. Il ne cache pas que ce qu'il sait de grec moderne, il le doit aux jeunes filles de Constantinople, à qui il comptait fleurette au bord de l'eau. C'était ainsi que j'imaginais la méthode Faugier. Il parlait le persan et le turc couramment, un turc des bas-fonds et un vrai persan de bazar, appris dans les bordels d'Istanbul et les parcs de Téhéran, sur le tas. Sa mémoire auditive était prodigieuse. Il était capable de se rappeler et de réutiliser des conversations entières, mais il manquait curieusement d'oreilles. Toutes les langues, dans sa bouche, ressemblaient à un obscur dialecte parisien, à tel point qu'on pouvait se demander s'il ne le faisait pas exprès, persuadé de la supériorité de l'accent français sur la phonétique indigène. Les Stambouliotes ou les Téhéranais, peut-être parce qu'ils n'avaient jamais eu la chance d'entendre Jean-Paul Belmondo baragouiner leur idiome, étaient envoûtés par l'étrange mélange de raffinement et de vulgarité qui naissait de cette monstrueuse association, celle de leurs pires endroits de perdition, et d'un savant européen à l'élégance de diplomate. Il était d'une grossièreté constante dans toutes les langues, même en anglais. La vérité, c'était que j'étais terriblement jaloux de sa prestance, de son savoir, de son franc-parler comme de sa connaissance de la ville. Peut-être aussi de son succès auprès des femmes. Non, surtout de son succès auprès des femmes. Dans ce 5e étage perdu au fond d'une ruelle de Djihangir que nous partagions, dont la vue ressemblait à celle du panorama, il y avait très souvent des soirées organisées par lui, où accouraient grand nombre de jeunes personnes tout à fait désirables. J'ai même dansé, quelle honte, un soir, sur un tube de Sezen Aksu ou d'Ibrahim Tatlıses, je ne sais plus, en compagnie d'une jolie turque, cheveux mi-longs, pull moulant en coton rouge vif assorti au rouge à lèvres, maquillage bleu autour d'yeux de houri, qui s'était ensuite assise à côté de moi sur le canapé. Nous discutions en anglais. Autour de nous, d'autres danseurs, des bières à la main. Derrière elles, s'étalaient les lumières de la rive asiatique du Bosphore jusqu'à la gare de Haydar Pacha. Elles encadraient son visage aux pommettes saillantes. Les questions étaient banales. Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu à Istanbul? Et comme d'habitude, j'étais dans l'embarras. I am interested in the history of music. Are you a musician?
Embarras. No, I study musicology. I am a musicologist. Étonnement, intérêt.
How great! Which instrument do you play?
Vif embarras. I don't play any instrument. I just study. I listen and write, if you prefer.
Déception, étonnement désappointé.
You don't play, but you can read music.
Soulagement.
Yes, of course, that's part of my job.
Surprise, suspicion.
You read, but you don't play.
Mensonge éhonté.
Actually, I can play several instruments, but poorly.
Ensuite, je me lançai dans une longue explication de mes recherches, après un détour pédagogique par les arts plastiques. Tous les historiens écrivent